Il est 9h40 tout pile, l'instant M est de retour dans vos oreilles.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Ce matin, l'Ardèche monte à Paris. Dans les années 70, l'Ardèche s'était dit qu'elle n'avait pas besoin de Paris pour devenir le centre du monde du documentaire d'auteur. Ça a donné un festival, l'USAS, les états généraux du documentaire. 40 ans après, l'USAS s'empare de l'Internet mondial et crée un site pour diffuser le meilleur du documentaire. Des films exigeants, des films surprenants, de ceux que la télé a bridé, a formaté, à petit à petit rejeter. Bonjour Jean-Marie Barbe.
Bonjour.
Grand ordonnateur de cette plateforme internet baptisée Tank. On dit bien Tank ?
On dit bien Tank.
Ça méritait un aller-retour à Paris pour nous la présenter. Ce sera juste après Bruno Donnet. Salut à toi.
Bonjour Bruno.
Bruno Donnet qui s'est amusé à, comment dire, filtrer les JT.
L'instant M, le rendez-vous média de France Inter.
Voilà, samedi soir, Bruno, vous avez aperçu Florian Philippot dans le 20h de TF1 et, ça vous a fait réfléchir ce matin sur l'indispensable rôle de filtre dans les médias.
Oui Sonia, alors Philippot et réfléchir, hein, dit comme ça dans la même phrase, j'ai bien conscience que ça peut paraître un peu insolite. Et pourtant, écoutez donc ce que j'ai entendu dans la bouche du vice-président du Front National qui tentait d'expliquer à une journaliste de TF1 la différence entre les médias et les réseaux sociaux.
Bah, il y a vous, les médias, vous êtes là de toute façon, et puis il y a les réseaux sociaux qui sont eux sans filtre. On peut parler directement à une communauté internaute extrêmement importante.
Voilà, alors qu'est-ce que dit Philippot ? Eh bien, il dit que les médias, c'est chiant, parce que ça filtre la parole, que ça vérifie les propos, que ça révèle les inexactitudes et les intox, bref, que ça fait un boulot très contre-productif pour son parti. Alors, vous savez parfaitement, cher Sonia, à quoi sert un filtre, hein. Dans le café, par exemple, ça laisse passer l'arôme, mais ça retient le marc, c'est-à-dire la bouillasse du café. Et Philippot, lui, eh bien, il préférait que les médias laissent davantage passer la bouillasse idéologique que colporte le FN, sans la filtrer. Du coup, après avoir entendu ça, je me suis demandé si les grands médias, comme les journaux télévisés par exemple, jouaient toujours ce rôle de filtre. Et j'ai regardé comment, hier, les grandes chaînes avaient couvert deux événements, la manif des habitants de Calais et la défaite du parti d'Angela Merkel en Allemagne. Et je dois dire que j'ai pas été déçu du voyage, car voici ce que j'ai entendu. On commence par Calais, dans le 19-20 de France 3.
On n'en peut plus et moi je suis prêt à partir.
Voilà, sur France 3, les Calaisiens n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus des réfugiés. Et sur France 2 ?
Vous êtes à bout, vous.
Ah, moi j'en ai ras-le-bol, mais franchement, ras-le-bol.
Voilà, pareil, ils en avaient ras-le-bol. Et pourquoi qu'ils en avaient ras-le-bol ?
C'est quand même un monde, on n'est plus chez nous.
Eh ben voilà, parce qu'ils sont plus chez eux, dis donc. Bon. Et maintenant, Sonia, savez-vous pourquoi les Allemands ont sanctionné Angela Merkel dans les urnes ? Non ? Eh ben je vous le donne en mille. À cause des migrants aussi. Écoutez France 2 hier soir.
Ça peut plus durer.
Et maintenant, écoutez l'analyse de Michel Scott dans le 20h de TF1. Question de Gilles Boulot, pourquoi les Allemands sont-ils mécontents d'Angela Merkel ? Réponse.
Ils sont nombreux à lui reprocher cette vague migratoire que l'Allemagne n'a pas eu tant de facilité que ça à absorber.
Voilà. Alors, loin de moi, hein, Sonia, l'idée de minimiser ici les difficultés éprouvées par les habitants de Calais. Mais est-ce qu'on peut se contenter de traiter le problème comme ça. Car quand on entend ça, on est en droit de se demander où est le filtre, où est la plus-value médiatique si le seul boulot des journalistes consiste à recueillir l'exaspération des riverains et à diffuser leur ras-le-bol, à se contenter de présenter les migrants comme les seuls responsables des difficultés de Calais ou de l'Allemagne. Aller recueillir la colère. C'est facile, c'est spectaculaire et délicieusement télégénique. Seulement voilà, ça participe aussi à jeter de l'huile sur le feu et à alimenter ce sourd climat de xénophobie qui infuse gentiment mais sûrement. Alors oui, le filtre, c'est pas facile à manier, mais c'est tout de même extrêmement nécessaire, faute de quoi Philippot et sa bouillasse idéologique finiront par l'emporter, plus seulement sur les réseaux sociaux, mais également dans les médias.
Bruno Donnet, hein, tous les mardis dans l'Instant M, m'est avis que dans quelques minutes avec Jean-Marie Barbe, on va parler d'un autre genre de film. Non, un autre genre de film, oui, et un autre genre de filtre. Ça s'appelle Le regard d'un auteur. Le cinéma documentaire pénètre la radio verbalement et physiquement. Jean-Marie Barbe nous parle de Tank, une nouvelle façon de le diffuser, de vous y donner accès. Ce faisant, une grande réalisatrice de documentaires, Claire Simon, s'est installée dans nos studios. Elle filme Jean-Marie Barbe, parlant du documentaire. Un documentaire en train de se faire sur le documentaire.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Jean-Marie Barbe, quand on allume sa télé pour regarder un documentaire, et bah très souvent on tombe là-dessus.
La mozzarella, c'est le fromage le plus consommé au monde. Parfois, vous vous dites qu'elle n'a pas de goût. Mais êtes-vous sûr de réellement bien connaître ce produit ?
Celui-là, vous ne l'avez pas sélectionné à l'USAS.
Pas encore.
Non, ni sur Tank. C'est ça. En même temps, c'est la réalité, Jean-Marie Barbe. C'est le tout venant des films qui nous sont proposés et qui, de chaîne en chaîne et finalement de sujet en sujet, usent à peu près toujours des mêmes ficelles. Est-ce qu'on peut les passer en revue, ces ficelles ? Que ça nous rafraîchisse la mémoire ou que tout simplement ça nous fasse prendre conscience de ce qu'on regarde tous les jours ?
Oui, ben, on peut décliner, par exemple, le cinéma dominant, National Géographique du lion qui fraye avec la lionne et qui va manger la gazelle. Mm-hmm. Là, on y a droit sur toutes les coutures, X fois par jour, sur X chaînes. Alors, si c'est pas le lion, c'est le guépard. Si c'est pas le guépard, c'est bon. Voilà, les tombeaux en Égypte, mm-hmm. où là, on va avoir aussi la dernière trouvaille d'archéologique, etc.
Qui sont finalement les seules fenêtres ouvertes vers l'étranger, parce que quand il s'agit de parler de sujets de société ou de sujets politiques, la télévision documentaire, elle reste quand même très franco-française, Jean-Marie
oui,
Barbe.
Au-delà de ça, elle est très informative. Et la grande différence qu'il y a entre le documentaire et l'information, c'est que le documentaire, il documente. Et documenter signifie instruire. Alors que l'info donne des nouvelles. Mmh. Et donc, le documentaire documente, ça veut dire qu'il prend le temps au moment de l'écriture, au moment du tournage, au moment du montage. Enfin, un film documentaire, ça met 2 à 3 ans avant de se faire. Dans les plus courts délais, c'est 1 année. Donc, c'est de la pensée à plusieurs pendant 1 année pour un objet qui est en décalage, léger décalage, mais décalage avec l'immédiat.
Alors le problème, c'est que dans la forme de la plupart des documentaires qu'on voit à la télé, la narration, la forme, elle est la même que l'info. C'est-à-dire
absolument.
Que cette voix off, là, ce commentaire qu'on vient d'entendre,
absolument.
C'est le même dans les JT, dans les journaux télévisés, c'est le même dans les magazines, c'est le même dans les reportages, oui. Et c'est le même dans les documentaires aujourd'hui.
Mais la télé veut toujours le même.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'elle sait, elle pense savoir, et je crois qu'elle sait via médiamétrie ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc la télé montre aux gens ce qu'ils aiment. Nous, ce n'est pas ça notre objet. Notre objet, c'est de montrer aux gens des œuvres qu'ils pourraient aimer. Le « pourrait » fait vraiment la différence. C'est-à-dire, en gros, permettre à chaque fois un essai, une forme de déranger, de surprendre, d'intéresser, de faire travailler le spectateur. Et l'idée, c'est ça.
Alors, encore un mot sur la télévision. Oui. Sans la télévision, il n'y aurait pas eu le documentaire. En même
évidemment.
Temps, tel qu'il existe en France.
Oui, alors, il y a une très belle histoire du rapport télévision documentaire des années 80 et 90. Mmh. C'est effectivement une très belle histoire qu'on retrouve en Angleterre avec Channel 4, qu'on a retrouvé avec la ZDF en Allemagne, qui est, c'est les années de grâce, et la télé était moins soumise à la compétition entre télévisions.
Il y avait moins de chaînes.
Il y avait beaucoup moins de chaînes, et surtout, il y avait cette idée que à la télévision, on peut montrer des objets qui vont pas faire consensus.
Alors, c'était quelle chaîne ? Parce que c'est l'époque de la privatisation de TF1, c'est l'époque de la création d'M6. Donc, eux ne s'intéressent en fait quasiment pas aux documentaires d'auteurs, aux documentaires de création. Donc, c'était quoi ? Les chaînes de service public ?
C'était essentiellement Arte La 7, qui a tiré l'ensemble vers le, vers le haut, plus Planète, parce qu'il y avait une tradition à Planète.
Canal Plus aussi.
Canal Plus en partie, bien que Canal a toujours été très influencé par le côté la grande machine assez spectaculaire. Mais Canal Plus a produit des objets incroyables. Il y avait aussi la télévision de service public. Donc il y a un passé assez brillant entre et une lune de miel, on va dire, entre la télé et le doc.
Qu'est-ce qui s'est passé alors au tournant des années 90.
Il s'est passé qu'à partir de 91-92, les télévisions ont toutes, chaque matin, le nez rivé sur l'audimat, sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et on est, enfin je veux dire, tous, tous, de Arte jusqu'à TF1. Alors on peut le comprendre des chaînes privées, voilà, mais des chaînes publiques c'est plus difficile à comprendre. Ça c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément qui est une évolution culturelle. Il y a un monde de la télé, il y a un entre-soi, et dans l'entre-soi on voit les objets consensuels qui vont marcher sur plusieurs pays. Il y a l'idée de l'objet industriel qui va faire un tabac partout. Ça, ça marche. Ensuite, il y a probablement aussi l'idée que pour fidéliser, il faut pas faire des essais formels trop dérangeants. C'est-à-dire qu'en gros, nous, ce qu'on défend, c'est que la forme est une vision du monde. Ce que défend aujourd'hui, ce que défendent la plupart des télévisions, alors il y a des exceptions, hein. Il y a des programmes de nid quelque part, on peut caser là un film, tu as parfois
et voilà, un l'art décideur. Des choix qui tutoie à l'antenne.
Ouais, je tutoie
il
l'auditeur.
Est comme ça Jean-Marie Barbe, il tutoie tout le monde.
Mais du coup, voilà, il y a un moment où en gros, hein, pour faire simple, la création, elle s'est retrouvée dans les festivals, produite par des petites télévisions, et ça a été assez terrible du point de vue économique, parce que les œuvres les plus créatives sont produites dans des conditions économiques désastreuses.
Je vous fais écouter un petit peu d'une œuvre très créative.
S comme solidaire, sortir du redressement judiciaire.
Comme courageux, on s'en sortira tous victorieux. Alors en avant lingerie, d'hier comme d'aujourd'hui.
Ribambelle de satin,
ribambelle de satin.
Joli ruban de dentelle,
soutien-gorges et culottes.
Ce sera la plus belle des scopes.
Mariana Otero, entre nos mains, des ouvrières d'une usine de lingerie qui voudrait la reprendre en scope. Et puis, c'est l'échec. Et pourtant, ce film finit en comédie musicale. Oui, la forme, c'est une vision du monde et il faut tenter, il faut prendre des risques en matière d'écriture et de mise en scène. Alors, ces films-là, on les voit dans les festivals. Ces films-là, on va les voir sur Tank, cette plateforme que vous lancez. Mais ça représente combien de films? De combien de films on parle, Jean-Marie Barbe?
Oh, je pense que sur le territoire national français, on est sur 250, 300, 350 films par an.
C'est énorme.
Sur les 2500 produits soutenus par le CNC. Là-dedans, je mêle à la fois les films de cinéma. En documentaire de création, il doit y avoir la moitié des films qui sortent en salle, on va dire 50 films donc, qui sont du documentaire de création. Le reste, c'est du documentaire spectaculaire, dossier, etc., etc. Et puis, il y a les productions internationales. Et il y a une foultitude de jeunes gens, moins jeunes, qui font des œuvres documentaires. Parce que l'effet miroir du documentaire, c'est-à-dire « dis-moi qui je suis par le cinéma, renvoie-moi une image de moi-même », c'était quand même, pendant des décennies, le privilège des pays qui avaient l'industrie du cinéma. Aujourd'hui, c'est général. Sauf qu'il faut former évidemment des gens, il faut accompagner les réalisateurs, mais
c'est... Et vous le faites depuis des années, notamment avec des réalisateurs, des producteurs africains, et vis-à-vis des publics en
Afrique. Absolument. L'idée, c'est de concourir au développement d'une génération de documentaristes à l'échelle planétaire, puisque on a des outils maintenant. Et alors, ça peut paraître comme ça délirant, mégalo et tout, mais c'est un vrai projet intellectuel et politique.
Alors,
c'est
regardez, je vous fais écouter un petit extrait d'un film qui s'appelle Examen d'État et qui raconte, mais vraiment, le combat poignant d'une classe de gamins qui se bat pour avoir accès au savoir. Ils sont en face de leur examinateur, on est en Afrique.
Au Congo.
Je crois aujourd'hui, nous sommes nombreux parce qu'il y a examen. Et ici, il ne faut pas me dire, oh, il y a ça. Non, c'était bien dit qu'aujourd'hui, a droit celui qui paye la troisième tranche et celui qui paye le 1000 francs. Lorsqu'on va vous chasser, on ravit le papier, c'est votre problème.
Et voilà, a droit de passer son examen, celui qui paye les 1000 francs. Jean-Marie Barbe, on se balade, on rentre dans Tank. C'est 6 euros par mois, c'est pas excessif. Ceci dit, on n'en peut plus des abonnements. On
c'est
en
vrai.
A pour voir du sport, on en a pour voir c'est du vrai. Cinéma, on en a pour téléphoner, on en a pour s'informer. Il y a un moment, ça s'accumule dans nos budgets à tous.
Oui, Alors d'abord, si on est abonné, c'est 5 euros. Mm-hmm. Et le premier mois, c'est 0,96 euros. Donc c'est quasiment gratuit. Donc pour aller voir, oui. Allez voir Tunk, tunk.fr. Et voilà. Et là, vous
Tunk,
comprendrez.
D'où sort ce nom barbare, Tunk.
Alors, c'est,
T-E-N-K.
C'est
et il y a un tréma sur le...
C'est un très beau mot. C'est un mot Wolof, donc la langue dominante au Sénégal, qui a plusieurs significations. Une première qui est l'entrave qu'on met au bœuf pour pas qu'elle s'échappe, et une deuxième qui est cette idée que, bon, tu parles depuis un moment, il y a la palabre, mais résume-moi ta pensée. Tunk-moi, dis-moi l'essentiel.
Alors, tunkez-nous, Jean-Marie Barbe. Il y a 9 cases, finalement, sur ce site. On va se plonger dans ce que proposent les festivals du monde entier.
Oui.
Il y a des films réservés, par exemple, à la musique, à
oui.
toutes les musiques.
Oui.
Ça, c'est très important. Oui. À toutes les musiques. Il y a des films d'histoire, il y a des films de politique, il y a des films sur l'écologie. C'est aussi oui. toute l'histoire de votre festival, Lussas, d'être engagé, mais au cœur des enjeux du monde.
Oui, ça, c'est le cinéma d'auteur qui est engagé. C'est ce cinéma d'auteur, ce cinéma ou cet audiovisuel qui est un peu, je dirais, qui est très méconnu, très mal connu. On connaît les Depardon, on connaît quelques films de Nicolas Philibert, Claire Simon, Mariana Otero, mais ou Agnès Varda. Mais ce sont les exceptions. Derrière, il y a 20 000 réalisateurs en France qui ont fait un jour ou l'autre des docs et qui et 5 000 qui sont en activité quasi permanente. Donc il y a une vraie production hein, de ce point de vue-là.
Et en même temps, il y a des stars et des grands classiques sur Tunk.
Et en même temps. C'est ça, c'est qu'on est ouvert sur le monde et le monde, depuis des décennies, génère des cinéastes qui ont cette approche documentaire. Les Russes, les Japonais, les un peu les Indiens, beaucoup aux États-Unis, les Weissman et Mays.
D'ailleurs, vous proposez des monographies.
Absolument.
Alors, à la télévision, il y a souvent des cycles sur des cinéastes, mais rarement des cycles sur les documentaristes.
Voilà, ben là, alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a différentes plages.
Oui.
Parce que là aussi les mots ont un sens, donc on n'est pas la télé, donc on n'est pas des cases ni des grilles, on est des plages, c'est ouvert sur le large et il peut y avoir de la tempête mais il peut y avoir aussi le calme plat et donc ces plages sont thématisées.
Oui.
Y a des films liés aux cités, il y a des films, il y a des grands entretiens avec des intellectuels et des penseurs contemporains, mais il y a aussi des films liés à l'écoute et au son et à la musique, mais il y a aussi des films liés à l'écologie. L'idée, c'est un contre-regard, au sens un autre regard décalé par rapport au flux médiatique, pour reprendre le terme de tout à l'heure, parce que là, il y a de la pensée. C'est des films qui sont pensés, qui sont travaillés. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais il y a un point de vue, des points de vue sur le monde et ça donne une distance. Ça permet de regarder le monde avec plus de subtilité, donc c'est nécessaire.
Et ça s'appelle Tunk, T-E-N-K et ça nous a beaucoup plu à l'instant même. Merci Jean-Marie Barbe, c'est la fin de l'émission.
Merci.
Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia de Villers.
Alors, combien vous fasse ?
Est-il possible d'échapper à la tyrannie du paraître ? Accordez-vous de l'importance à la beauté, à la minceur lors de vos interactions sociales ? Avez-vous déjà été discriminé en raison de votre apparence physique ? Nous attendons vos questions et témoignages au 01 45 24 7000 et sur notre adresse grand bien vous fasse @radiofrance.com.
Voilà, nous à la radio, le physique, pour le paraître, rien du tout.